Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Patrick Canin, président de la Ligue des droits de l'homme du Rhône. Patrick Canin, bonjour.
Bonjour.
Depuis les attentats du 13 novembre, la France est en état d'urgence. Alors la LDH vient de lancer un observatoire des dérives de cet état d'urgence dans le Rhône. Mais oui, il risque d'être maintenu occupé encore longtemps car Manuel Valls a déclaré que cet état d'urgence serait prolongé jusqu'à ce que Daesh soit anéanti. C'est une annonce qui vous révolte, j'imagine ?
Alors, tout à fait, mais nous ne sommes guère étonnés parce que je dois vous dire que la Ligue des droits de l'homme, lorsque l'état d'urgence a été mis en place dès les attentats, la Ligue a considéré que l'état d'urgence pendant 10-12 jours pouvait être acceptable. Mais à partir du moment où cet état d'urgence a été étendu pour une période de 3 mois, la crainte était effectivement de voir l'état d'urgence perdurer et puis également des dérives dont on parlera tout à l'heure.
Oui.
Parce que le pouvoir est en quelque sorte piégé par cet état d'urgence, on le voit bien. D'après la déclaration de Manuel Valls, ça risque d'être indéfiniment. Enfin, en tout cas pour de longs mois, voire années, parce que la lutte contre Daesh risque de perdurer dans la mesure où cette organisation terroriste se déplace. On en a pour longtemps si on va dans l'idée de Manuel Valls.
Concernant ces observatoires qui ont vocation à naître dans la plupart des départements en France, qu'est-ce que vous entendez par dérive en général ?
Alors, dans le département du Rhône, la Fédération du Rhône a mis en place avec le Syndicat des avocats de France cet observatoire pour dénoncer les dérives que nous pourrions constater.
Alors
par
quoi,
dérive,
ouais,
il faut entendre toute application de la loi de prorogation de l'état d'urgence dans un sens autre que la lutte contre le terrorisme et les abus qui sont commis au fur et à mesure de, par exemple, des perquisitions, des assignations à résidence, etc. Donc, on souhaiterait que les victimes nous contactent pour instruire ensuite, pour qu'on instruise les dossiers et qu'on dénonce publiquement les violations, les dérives lorsque vraiment elles seront constatées objectivement. Et puis, qu'il y ait des suites, peut-être judiciaires, s'il y a lieu, engagées par les victimes avec notre aide. Parce que la Ligue peut agir devant les juridictions en soutien ou à titre principal pour la défense des droits et libertés.
Environ 110 perquisitions ont eu lieu dans le cadre de l'état d'urgence dans le Rhône. Certaines ont permis de trouver des armes de guerre. On se souvient de ce lance-roquettes qui avait été retrouvé à Fézin. Il y a aussi eu 10 assignations à résidence. Selon vous, certains de ces actes n'étaient pas justifiés ?
On n'a pas de détails. On ne sait pas en quoi consistent ces armes saisies. Alors, semble-t-il, il y aurait un lance-roquettes. Bon, alors effectivement, c'est une arme de guerre. Mais à côté de ça, quand on nous dit au niveau national, il y a 500 saisies d'armes. La loi de 2015 permet la saisie d'armes, même détenues légalement. Ce qui fait que quand il y a une perquisition et que les forces de police voient qu'il y a même un fusil détenu légalement, elles peuvent le saisir. Comme arme de guerre, il y a parfois des armes de collection qui sont considérées comme armes de guerre. Bon, voilà. Alors là, évidemment, un lance-roquettes, c'est vraiment l'arme de guerre typique. Mais
qui servent à un attentat ou qui servent à braquer des convoyeurs de fonds, finalement, tant mieux qu'il ait été saisi.
Mais alors le problème, c'est que si on fait des perquisitions pour lutter contre le terrorisme, on peut considérer qu'on est dans ce cadre de la loi. Mais là, on voit l'utilisation des pouvoirs de police administrative dans le cadre de lutte contre d'autres infractions. Ceux qui mènent ces procédures le savent pertinemment. Ils ont des dossiers qu'ils n'ont pas pu traiter sur le plan judiciaire parce qu'il faut démontrer une infraction. Et là, avec cette loi, c'est pratique. Il suffit d'invoquer le fait qu'une personne est une menace pour l'ordre public. Donc on va perquisitionner, on trouve quelque chose et l'affaire est entendue.
Il y a aussi le fait que les préfectures partent du principe que le grand banditisme, que le trafic de stupéfiants puisse servir à financer le terrorisme ou le djihadisme. On ne peut pas nier qu'il y ait parfois des liens entre ces secteurs.
Alors, il peut y avoir des liens, mais vous savez, le code de procédure pénale, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a eu quand même 22 lois de répression du terrorisme depuis 1986, les premiers attentats. 22 lois qui ont renforcé les textes en matière de procédure pénale. Le code de procédure pénale contient des dispositions considérables et d'exception en matière de terrorisme. Les règles de poursuite, d'instruction, de jugement sont différentes en matière de terrorisme. Donc déjà, avec tout cela, on a les moyens de lutter contre le terrorisme. Donc, si on voulait vraiment être efficace, on a les moyens. Mais là, c'est l'aspect un peu pratique aussi pour le gouvernement, et on voit qu'il y a eu des dérives à cause de ça. C'était pratique pour réussir la COP, pour éviter des incidents, d'utiliser la loi sur l'état d'urgence pour placer en résidence, en assignation résidence des écologistes, interdire de manifester pendant quand même 3 jours, hein, voilà, sous prétexte qu'on n'a pas les moyens de garantir la sécurité. Mais la sécurité, c'est un devoir de l'État. À ce moment-là, il suffirait de dire que comme il y a l'état d'urgence et qu'on a besoin de force ailleurs, il faudrait fermer les centres commerciaux, parce que là aussi, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Il faudrait fermer peut-être les centres-villes. Il y a plein de gens qui y sont. Les Champs-Élysées devraient être interdits à la circulation aussi. Voilà, donc ce n'est pas possible. On ne peut pas paralyser un pays comme cela. Donc on a vu, il y a des cibles. Il y a des personnes qu'on cible parce que c'est très pratique cette loi, mais c'est très grave pour les droits et libertés.
L'Observatoire est encore jeune dans le Rhône, mais est-ce que vous avez noté quand même des dérives?
Nous avons été saisis de 3 cas qui ne sont pas des assignations à résidence, hein, mais je ne peux pas donner plus d'indications là-dessus dans la mesure où on a décidé que tant que les dossiers ne seraient pas instruits, nous n'en parlerions pas. Oui. Ah, parce qu'il va aussi de la garantie des personnes qui nous ont saisies. Certaines ne voudront peut-être pas que ce soit rendu public. Alors, on rendra anonymes les dossiers. On fera tout pour que personne ne se rende compte que c'était telle personne qui a été victime. On rendra public la situation, mais pas après les noms, sauf ceux qui souhaiteraient que ce soit public. Alors, on a 3 cas. Dans cet observatoire, il y a des magistrats honoraires, il y a des avocats, puisque le SAF, donc Syndicat des avocats de France, en fait partie. Oui. Et donc, voilà, on instruira juridiquement les dossiers.
C'est vrai qu'on parle rarement, voire jamais, de ces victimes présumées des dérives de l'état d'urgence.
Oui.
Comment elles se sentent aujourd'hui? C'est vis-à-vis de leurs voisins, par exemple, le fait qu'on soit venu défoncer leur porte à l'aube, ça passe mal?
Alors voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est probablement très difficile pour l'instant d'avoir des plaintes qui remontent. Parce que c'est vrai que les gens se sentent peut-être mal à l'aise et aussi vis-à-vis des voisins, donc ils ont été stigmatisés quelque part parce que les gens ont vite fait le lien entre une perquisition chez quelqu'un qui n'aura peut-être rien donné, mais on va dire, regardez, il y a eu une perquisition en pleine nuit parce qu'elles peuvent être en pleine nuit. Voilà, on va en quelque sorte penser que cette personne-là est peut-être dans un réseau terroriste, alors que ça n'a peut-être rien à voir et même sûrement rien à voir, car au niveau national, il n'y a qu'une seule procédure de mise en examen d'une personne. Il y a une personne au niveau national, alors qu'il y a eu plus de 3 000 perquisitions. Une personne pour terrorisme. Et on ne sait pas pourquoi, parce que ça peut être pour d'apologie de terrorisme. Dans ce cas, c'est une procédure de terrorisme. On ne sait pas pourquoi. Donc, si tout ça avait été efficace, il devrait y avoir des réseaux entiers qui soient l'objet de mise en examen.
Votre initiative apparaît un peu à contre-courant avec ce que pensent les Français, puisqu'un récent sondage fait état de 77% de la population qui soutient l'état d'urgence, même si elle ne trouve pas que les perquisitions soient efficaces. Est-ce que ça ne remet pas en cause votre détermination?
Non. Alors, bien entendu, ça peut paraître décevant. Mais je crois que le rôle de la Ligue des droits de l'homme, c'est de mener inlassablement le combat contre les atteintes aux droits. Pour l'état d'urgence, si on disait vraiment aux Français la vérité sur ce qu'est réellement l'état d'urgence, eh bien, ils constateraient que ce n'est pas une garantie contre le terrorisme et qu'il y a eu des dérives telles qu'on a appliqué cette loi à des personnes qui ne devaient pas en subir les conséquences. Alors pour l'instant, c'est vrai que les sondages sont un peu décevants, mais la Ligue a mené jadis des combats où elle était minoritaire. Hein, la lutte contre la peine de mort et bien d'autres de combats, c'est pas une raison pour nous de laisser tomber. Au contraire, nous sommes extrêmement motivés.
Oui, vous avez également déposé un recours contre l'état d'urgence qui doit être étudié demain. Vous êtes confiant?
Alors voilà, donc la Ligue des droits de l'homme a été très souvent à l'origine de saisines des juridictions administratives. Elle a demandé au Conseil d'État plusieurs fois de saisir le Conseil constitutionnel par voie de QPC. Bon, les affaires sont encore en cours devant le Conseil constitutionnel. Mais le recours qui sera l'objet de l'audience demain devant le Conseil d'État, c'est un recours de la Ligue pour obtenir la suspension par le juge des référés du Conseil d'État de l'état d'urgence, pour qu'il donne injonction au président de la République de mettre fin à l'état d'urgence. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, la déclaration récente de Manuel Valls, elle va dans le sens de faire durer les choses. Eh bien, plus on s'éloigne des attentats, moins c'est justifié juridiquement. Et d'ailleurs, la France pourrait être l'objet même de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment. à ce sujet.
Merci Patrick Canin.
Merci à vous.
Je signale que vous tiendrez une conférence le 12 février sur l'état d'urgence à la Maison des Associations dans le 6e.
Oui.
Et en attendant, notre entretien est à retrouver en intégralité sur lionmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lionmag.com.